Non mais regardez-moi ces ploucs qui lisent. Ça va là, t'arrêtes de lire, oui? Non mais le dernier livre que t'as lu là, c'était quoi? C'était quoi? Moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire. Tu sais lire toi? Non, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais c'était pas mal. Va te faire lire!
Chut, écoute. L'émission littéraire sur Ronde Courte.
Jusque dans nos bras, Alice Zénitaire. Le 22 février 2008, Mad est dans mon petit appartement d'étudiante, 10e arrondissement. Il y a une église blanche dans la rue, des fleurs à tous les balcons, un parquet qui grince et en face, derrière la porte rouge foncée, une voisine qui me hait depuis ma pendaison de crémaillère, quand Dahlia a vomi sur son paillasson. Il vient de passer la journée à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour. Comme d'habitude, ça le met dans une rage folle. Il fume cigarette sur cigarette, et quand son paquet est fini, il le broie méthodiquement dans son poing et plie en petits carrés le film plastique qui l'entourait, de plus en plus petit, jusqu'à ce que ça forme une minuscule boule entre ses doigts. Il joue avec pendant quelques minutes avant de la jeter dans mon cendrier en forme de poisson, et il la fait fondre avec son briquet. Quand il a épuisé toutes les possibilités d'occupation qu'offrait son paquet de cigarettes, il lève la tête et il me dit « Je n'en peux plus, Alice. » Leur gueule à tous, leurs lunettes, leur nez, quand les lunettes glissent, leur toussotement, leur façon de sourire un peu quand je bégaye ou quand je m'embrouille, alors que « Putain, je ne fais pas de faute en français. Je parle leur langue de merde depuis que je suis née. Et je parle en pur français. Moi, j'ai tout lu. » J'ai grandi avec tous ces bouquins, qu'ils ne liront jamais, avec leurs nez gras, leurs mains moites et leurs petits chuintements quand ils avalent leurs lèvres inférieures dans cette grimace crispée. Et tu sais bien, toi, que je peux être le francophone le plus élégant du monde. J'écoute Mad sans rien dire parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Depuis qu'il est rentré en France la dernière fois, majeur et par ses propres moyens, il retourne tous les ans à la préfecture avec son contrat de travail et les lettres de recommandation de son employeur. Et puis ses factures EDF, et puis ses notes du baccalauréat pour éviter l'injure mortelle d'une injonction à passer le DILF. Quand la loi de 2006 a obligé les étrangers à donner les preuves de leur niveau de français, Mad s'est mis à trembler à l'idée de ce test. Il n'a pas peur d'échouer, au contraire, Mad est trop bon en français. Et tu te rappelles au lycée pendant sa période Mallarmé, quand il ne parlait presque qu'en citation des grands faits divers et du coup des dés, et les colères dans lesquelles il te mettait en trouvant tout bas de basalte et de lave. Forcément, ce Mad-là, celui des cadavres exquis et des mots alambiqués, celui des concours avec toi pour finir le plus vite un bouquin, considère comme une humiliation terrible d'avoir à montrer qu'il sait lire l'heure sur un magazine télé et trouver sur quelle chaîne passe telle émission. Et s'il rentre du travail à 18h15, quels sont les programmes qu'il pourrait regarder? Depuis 3 ans, Mad jongle avec les sigles que tu ne comprends pas. La CST. Carte de séjour temporaire. Le CZEDA, code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les L311, article du CZEDA concernant les dispositions relatives aux documents de séjour. Et toi qui n'as jamais su quoi cocher pour tes demandes d'APL, tu le regardes avec effarement, remplir des dossiers qui te sont complètement hermétiques, et parfois en te penchant au-dessus de son épaule, tu lis des phrases aussi terribles que « D'après le JO du 25 juillet 2006, pas de VLS obligatoire pour l'obtention d'une CST-VPF. » Alors la colère de Mad, tu as l'habitude. Tu sais qu'il faut qu'il se calme avant de pouvoir discuter avec toi, et que pour se calmer, il faut juste qu'il se déverse dans un flot de mots en bordel. Parfois même sans le moindre sens, mais très rapide, très saccadé. Mad crache les mots, comme les balles d'un chewing-gum, jusqu'à en perdre le souffle. Jusqu'à se pencher en avant à la recherche de sa respiration. Comme si elle se tenait devant lui, en l'air, dans la pièce, il se penche et la happe, et puis il reprend. « Assez, Alice, j'en ai assez. Parfois j'ai envie de les tuer, de les déchirer comme les guirlandes de bonhommes de papier. Faire d'eux des dossiers, des confettis minuscules, volants. J'ai envie de taper de mes deux poings la vitre plexiglas du guichet. Je sais bien qu'ils n'attendent que ça pour lancer les chiens et déchiqueter mes mollets et faire sortir rouge le sang et la chair en dessous de ma peau noire. Mais quand ils me disent qu'il manque des papiers... Des papiers qui n'existent pas, Alice. Comme si on te disait, quand tu apportes tes dossiers à la fac, « Mais vous n'avez pas mis de poudre de perlimpinpin ?» Ce n'est pas sérieux. Sauf que nous tous, tremblants, trop effrayés pour réfléchir, on peut croire à l'existence de ce papier et repartir le chercher, partout, frénétiquement, dans les dossiers énormes qu'on garde en prévision de la préfecture, en prévision de cette entrevue qu'ils daignent t'accorder, enfin, en remontant leurs lunettes sur leur nez suintant. Et on appelle partout à la recherche de la poudre de perlimpinpin. On appelle des administrations françaises qui comprennent la blague, mais ne nous aident pas, jamais, ricanent, discrètement, à l'abri d'un combiné de téléphone, et nous laissent à cette angoisse. Si on quitte la préfecture à ce moment-là, en les croyant, pour trouver ce document, on est baisé, foutu, pour de bon. C'est une règle éliminatoire. Ça leur permet de traiter moins de dossiers. L'idée, c'est de rester quoi qu'il arrive, même si le toit s'effondre, même si le téléphone sur le mur sonne jusqu'à ce que tu décroches et qu'on t'annonce que ta famille a été kidnappée, même s'ils payent des figurants pour venir crier que la Troisième Guerre mondiale vient de débuter et qu'il faut descendre dans les abris, si l'odeur de brûlé te parvient et qu'on t'apprend que c'est ta maison, l'incendie, et que peut-être ta petite sœur est coincée dedans, tu restes. Encore et encore. Tu peux te taire si tu veux. De toute manière, ils ne t'écouteront jamais, comme si tu étais un être humain. Ils te guettent. Ils guettent l'oubli d'un article défini, ou la confusion des genres, ou si tu prononces « tout » au lieu de « tu ». Mais le sens de tes phrases, ils s'en foutent. Ils se foutaient de moi quand je leur disais que j'avais un travail, et que la seule chose que je pouvais leur montrer, c'était ce contrat débile dans un magasin de chaussures. À cause de la mort de mon père, tu sais, difficile de recommencer les études après 2 ans là-bas. Et maintenant, ils se foutent de moi, parce que je veux une carte étudiant. Parce que enfin je peux, comme ils disent, justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français. Et tout à l'heure, la grosse femme derrière la cage en plastique de son guichet me disait « C'est bien ça, les études avec l'air de penser. Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher pour rester encore et nous emmerder ?» Alors que tu sais quoi ? Avec cette putain de carte d'étudiant, j'ai peut-être un permis de séjour plus long, mais pas d'accès à la sécurité sociale. Le trou de la sécu, ce n'est pas moi. Le fantasme du noir polygame qui touche des milliers en alloc, pas moi non plus. Moi, c'est quoi, tu veux savoir ? Peanuts, petite. Le pire, c'est que tout est lié, tout. Tu sais que si j'avais un diplôme d'études supérieures, je pourrais avoir déjà demandé ma nationalité. Ça réduit le nombre d'années de résidence obligatoire en France avant le dépôt du dossier. Mais comment je l'ai fait, mes années d'études, si je dois justifier de mes moyens de subsistance avant d'avoir une carte qui, de toute manière, limite mes possibilités de travailler ? Alors la femme me dit « Mais vous demandez quoi au juste, monsieur ? Une carte de séjour d'étudiant ou de travailleur ? Parce que si vous ne savez pas, je ne peux pas savoir à votre place. Et puis dans une demi-heure, je ferme. » Et je te jure qu'elle se pinçait discrètement les narines à peu près toutes les minutes, comme si je sentais. Et au bout d'un moment, elle m'en avait presque persuadée. Je voulais juste rentrer et prendre une douche, effacer l'odeur de mort, me frotter la peau jusqu'à l'abrasion, le sang et le parfum de Javel. Alors qu'elle, eux tous, si tu pouvais les voir, tellement pas mieux que nous, et leurs corps qui s'affaissent bruyamment derrière leur bureau, et les photos des enfants, et les post-it sur les écrans d'ordinateur. Ils griffonnent des étoiles et des petits bonshommes. Parfois, je te jure, je frise l'hallucination et je crois qu'ils vont tracer des croix gammées. J'ai presque envie de leur dire « Allez-y, on n'est plus à ça près ». Je les ai vues, vos lois de merde qui m'en servent de plus en plus. Celle de Sarko en 2006, celle d'Hortefeux en 2007. Comment vous pourriez me dire plus clairement que vous me haïssez ? Ils grincent, c'est ça. Leurs articulations grincent, leurs bouches chuintent, et les nez sifflent, et les papiers crissent sous leurs doigts, et les trombones cliquettent sur les bureaux, et puis ils finissent par te dire que c'est bon, tu as gagné, tu les as eus à l'usure. Mais est-ce que vraiment tu veux continuer toute ta vie à renouveler ce permis, hein ? Et tu sais que derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « rentre dans ton pays, négro ». Et moi, ce soir, je serai plus vite rentrée chez moi. Ils mentent. Ils mentent quand ils nous disent « tu l'aimes ou tu la quittes ». Tu sais, Alice, jamais ils ne nous laisseront l'aimer. Dis que tu aimes la France et tout de suite, ils te regardent étrangement. Cherchent sur toi, tes mains, des traces de chimie ou poudre, explosifs, bombes, parce que c'est forcément un mensonge. Tu ne le dis que pour rester, pour t'immiscer, oui. J'ai l'impression de m'insinuer entre les gens. C'est ça. L'impression qu'ils me donnent, comme de l'eau entre les pierres. Je me sens comme ça quand je prends le métro. Et je ne peux plus marcher normalement. En vérité, c'est tu la quittes ou tu la quittes. Et l'important, c'est quand. Eux, ils sont juste là pour te dire provisoire. Si tu as compris, négro, toi pas touché à mon pays. Mais tu sais, le pire, c'est que j'ai réfléchi à cause d'eux cette fois. C'était trop. Cette fois, c'était comme s'ils faisaient exploser ma tête à force de regards, à force de pincements. Et je me suis dit, ils ont raison. Ils ont putain de raison. Je ne veux pas ça toute ma vie. Renouveler ces titres et puis les revoir encore. Je n'en ai pas la force. Revoir cette femme qui ressemble à un bébé souris au moment où ils sont encore roses et aveugles, presque informes, tu vois ? Donc non, je me suis dit non. Je ne continuerai pas comme ça, je n'en peux plus. Matt s'arrête un peu pour respirer. Sa main gauche tord nerveusement le bord de mon tapis Ikea, à l'endroit où il y a déjà tellement de brûlures de cigarettes. Je lui demande. Et alors quoi, tu vas rentrer vivre au Mali ? Non, Alice. Je veux la nationalité française. Par n'importe quel moyen.